Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
La situation en Iran et la question du Groenland au menu d'un conseil de défense convoqué en urgence ce matin à l'Elysée. Paris a annoncé l'envoi de soldats sur le territoire arctique que convoite Donald Trump. Il ne faut pas sous-estimer la parole du président américain, a mis en garde le Premier ministre Sébastien Lecornu. Explication Europe 1 dans ce journal. En Iran, les mises à mort de manifestants se sont arrêtées selon Donald Trump, mais les contestataires tués par le régime des Mollahs se comptent par milliers dans un pays où toute la communication est coupée. De nombreux Iraniens en appellent à l'intervention des États-Unis. À suivre également un premier rebondissement hier dans le procès en appel de Marine Le Pen. Et puis, quel placement privilégié cette année pour vos économies? Europe 1, en partenariat avec le magazine Capital, vous donne les clés d'une épargne fructueuse, en particulier pour votre retraite. Il est 5h, le journal sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donald Trump va-t-il frapper l'Iran? Va-t-il intervenir au Groenland? Les questions géopolitiques sont pressantes et nombreuses ce matin. Et c'est pour y voir plus clair qu'Emmanuel Macron réunit à 8h en urgence un conseil de défense sur ces deux questions.
Oui, d'abord celle du Groenland, cet immense territoire qui appartient au royaume du Danemark.
Et hier, à l'issue d'un entretien tendu avec le vice-président américain J.D. Vance et son secrétaire d'État Marco Rubio, les diplomaties danoises et groenlandaises ont évoqué un désaccord fondamental avec Donald Trump, dont ils dénoncent la volonté de conquérir, c'est leur mot, leur territoire. Et le président américain n'en démord pas, il veut se saisir du Groenland.
Nous faisons le dôme d'or, nous faisons beaucoup de choses nécessaires. Si nous n'y allons pas, la Russie et la Chine vont y aller. Et il n'y a rien que le Danemark peut faire, mais nous pouvons tout faire pour y remédier. Nous allons voir ce qu'il va se passer, mais vous savez, je ne suis pas le premier. Ça a été initié par le président Truman, et 40 ans avant lui, ils en parlaient déjà. Ça fait des centaines d'années qu'ils en parlent. Beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est un sujet important depuis longtemps. Nous avons besoin d'une sécurité nationale, et l'Europe aussi.
Donald Trump qui assure avoir besoin du Groenland, il a surtout besoin de sa position stratégique et de son sous-sol riche en minerais. Face aux intentions américaines, l'Europe commence à s'organiser pour faire bloc, Arthur Delaborde.
Une réponse européenne se dessine avec une mission militaire déployée au Groenland. La France y participera, aux côtés notamment de la Suède et de l'Allemagne. Paris va envoyer un petit détachement de troupes pour un exercice. Des précisions doivent être données aujourd'hui par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées. En parallèle, sur le plan diplomatique, un consulat ouvrira au Groenland le 6 février. Un choix du chef de l'État qui alerte sur des conséquences en cascade inédites en cas d'atteinte à la souveraineté de ce territoire arctique. À l'Assemblée, Sébastien Lecornu met aussi en garde.
Les intentions de l'administration Trump sont sérieuses. Elles doivent désormais être prises très au sérieux. Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain.
Même ligne à Bruxelles, Ursula von der Leyen assure que les habitants du Groenland peuvent compter sur l'Europe. Un moment charnière pour mesurer jusqu'où les Européens sont prêts à aller pour défendre leur ligne rouge face à Washington.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
L'autre sujet sur la table ce matin, c'est toujours la situation en Iran, bien sûr. Donald Trump assure que les mises à mort de manifestants se sont arrêtées.
Mais il n'écarte pas pour autant ces menaces, entretenant un flou sur une éventuelle intervention militaire américaine en Iran et assurant que Washington suit de près la situation. En Iran, près de 3 semaines après le début de la contestation, plus de 3000 morts ont été recensés, certaines sources évoquant jusqu'à 20 000 victimes de la répression sanglante des Mollahs. Les autorités iraniennes qui ont totalement isolé le pays, ni SMS, ni appel, ni Internet depuis une semaine. Les informations arrive donc au compte-gouttes pour les Iraniens de France, très inquiets de la situation. Reportage Caroline Baudry.
La meilleure nouvelle que chaque Iranien il attend, c'est de réveiller le matin et avoir la nouvelle que Khamenei était mort.
Cette liberté de parole est sans, un architecte iranien la savoure dans ce café parisien. Quand ses proches en Iran parviennent à envoyer quelques nouvelles, c'est seulement du bout des lèvres.
Les échanges sont très courts, mais très émouvants. Tu sens qu'au fond de leur voix, ils ont peur de dire qu'est-ce qui se passe. Une sorte de retenue, de ne pas donner des infos, dans le peur d'être écouté.
Cette terreur du régime finit par essouffler les manifestants dans certains certaines villes. À Shiraz, par exemple, dans le sud du pays, c'est ce que raconte par message vocal l'une de ses amies.
Je traduis cet après-midi quand j'étais en retour et j'ai vu que les magasins commencent à être ouverts et les cafés commencent à ouvrir et j'avais un sentiment de désespoir. Si la vie rentre au normal et les manifestations s'arrêtent, on a tous peur de cette vague de répression qui va venir.
Les Iraniens réclament aujourd'hui l'aide des États-Unis, dit-il, indispensable pour faire tomber le régime. Objectif ultime de cette contestation qu'ils appellent désormais révolution.
Caroline Baudry, notait que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui pour un briefing sur la situation en Iran. Réunion à la demande des États-Unis.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 5h05.
Les charges contre Marine Le Pen ont-elles été surestimées? Premier rebondissement hier dans le procès en appel des assistants du FN.
Au deuxième jour d'audience, le parquet général a reconnu ne pas avoir la même lecture que le parquet national financier. Dans ce deuxième procès, l'accusation estime que plusieurs contrats d'assistants parlementaires pour lesquels Marine Le Pen avait été condamnée l'an dernier doivent être retirés du dossier. La Cour d'appel doit se prononcer aujourd'hui sur la question. Question qui pourrait offrir une première victoire procédurale à Marine Le Pen, Maïalène Trémollet.
Dans la salle d'audience, Marine Le Pen ne peut s'empêcher de hocher la tête en signe d'approbation quand son avocat Rodolphe Bosselu salue l'honnêteté du parquet général.
C'est un soulagement et c'est ce soulagement que je note aujourd'hui. Les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité et moins d'hostilité.
Concrètement, cela signifie que le parquet général considère la chef de file du RN à l'Assemblée injustement condamnée en première instance et que si la Cour d'appel lui donne raison aujourd'hui, le Parlement européen sera contraint de rembourser une partie du million d'euros déjà payé par le RN. Un début de procès pour l'instant plutôt favorable au parti, qui peut donc espérer une véritable seconde lecture de son dossier et aborde les semaines à venir avec une nouvelle stratégie de défense, celle d'assumer d'avoir peut-être commis un délit, mais sans en avoir eu ni l'intention ni la connaissance. Ainsi, Marine Le Pen affirmait devant les juges n'avoir jamais eu le sentiment d'être en faute, mais rejette surtout la responsabilité sur le Parlement européen, considérant qu'il n'a, je cite, pas joué son rôle d'alerte sur le sujet des assistants parlementaires.
Maïalène Trémollet.
50 militants de la Confédération paysanne ont été placés en garde à vue hier après avoir forcé l'entrée d'un bâtiment du ministère de l'Agriculture à Paris.
Oui, ils entendaient, dit le syndicat, protester contre le mépris du gouvernement en dépit de cette loi d'urgence agricole annoncée par le Premier ministre. La colère agricole qui s'est un peu apaisée hier, mais des actions sporadiques sont encore prévues aujourd'hui.
Le nouveau taux du livret A, il doit être dévoilé aujourd'hui à 1,7% pour le moment. Le plus populaire des produits d'épargne devrait baisser à 1,4%.
Et c'est le moment de se poser la question des placements à faire cette année. Aujourd'hui, Capital et Europe 1 vous éclairent sur les produits à éviter et ceux qu'il faut privilégier. Parmi les questions qui montent, celle de l'épargne retraite, alors que la pérennité de notre système par répartition est menacée par l'accumulation des déficits. Plus de 7 Français sur 10 sont inquiets pour leur pouvoir d'achat après avoir quitté la vie active. Dans ces circonstances, beaucoup d'entre eux cherchent à mettre de l'argent de côté en vue de cette échéance. Barthélémy Philippe, quelle stratégie financière faut-il mettre en place pour aborder sa retraite le plus sereinement possible?
Eh bien d'abord, mieux vaut partir à la retraite propriétaire en ayant remboursé son crédit. Maxime Chipoy est président de Moneyvox.
Quand on entre à la retraite, on perd entre 30 et 50% de ses revenus. Donc si on doit toujours payer un loyer qui représente environ 30% de ses revenus aussi, ça devient compliqué. Donc si déjà on a acheté sa résidence principale, on s'épargne le gros des problèmes.
Côté placement, deux produits sont recommandés selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
L'assurance vie, qui est un couteau suisse, qui permet tout à la fois de financer les projets moyen terme, la retraite, et puis il y a le PER, le plan d'épargne retraite, qui a été créé à cet effet et qui ouvre droit à une déduction fiscale à l'entrée pour la constitution d'un capital ou d'une rente en vue de la retraite.
Autre possibilité, l'investissement locatif qui permet de compléter sa pension avec un loyer. Enfin, les produits boursiers comme le PEA peuvent être payants dans le cadre d'une exposition à long terme. La probabilité de perdre de l'argent devient nulle au bout de 20 ans, selon les spécialistes. Et un investisseur peut espérer 7 à 10% de rendement annuel.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Merci Fanny Marceau et bienvenue à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 5h08. N'oubliez pas vos deux rendez-vous quotidiens avec Pascal Praud chaque jour sur Europe 1. D'abord l'heure des pros, c'est en codiffusion avec CNews de 9h à 10h et puis Pascal Praud et vous de 16h à 18h pour débattre de l'actualité et vous donner la parole.
Oui, 01 80 20 39 21 pour participer à Pascal Praud et vous de 16h à 18h tous les jours sur Europe 1.
Jeudi 15 janvier, bon réveil.
Vous écoutez Europe 1 Bonjour avec Alexandre Lemaire et dans quelques instants, c'est la revue de presse internationale.
Qui nous emmènera notamment en Belgique, la Belgique où les agressions se multiplient contre les détenteurs de crypto-monnaies. D'abord les courses, c'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 810 Catch Quick, longtemps éloigné des pistes en raison d'une santé fragile. Ces deux courses de rentrée le 1er décembre puis le 3 janvier sur l'hippodrome de Vincennes sont bien meilleures qu'il n'y paraît et avaient pour seule mission de peaufiner sa condition physique en vue de cet objectif programmé depuis plusieurs semaines par son entourage. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 10, Catch Quick.
Merci Thierry. Après le journal de 5h30 sur Europe 1, vous revenez. Venez nous donner vos pronostics du Quintet. Dans deux minutes maintenant, Marion, votre histoire dingue.
Est-ce que vous connaissez le gang du loto, Alexandre ?
J'en ai entendu parler, oui.
Ah voilà, c'est un gang de joueurs suisses qui ont élaboré un plan pour remporter le jackpot. Vous allez voir, ils sont très très malins.
Oui.
Il est 5h10 sur Europe 1.
La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous allons pour commencer en Belgique. Bonjour Mickaël Denut.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 à Bruxelles, qu'est-ce qui fait la une des journaux belges ?
Les détenteurs de crypto-monnaies sont de plus en plus souvent victimes de violences en Belgique. C'est à la une de la presse flamande. Une femme de 60 ans a ainsi été victime d'un cambriolage violent près d'Anvers. Elle a été frappée, ligotée et menacée avec une arme à feu. Les agresseurs espéraient lui dérober un butin en crypto, mais cela n'a pas été possible. Les auteurs ont alors pris la fuite. Ce cas n'est pas isolé, rappelle le site d'info 7 sur 7. Il y a 4 ans en Belgique, près d'un million d'euros en crypto auraient été dérobés lors d'un braquage violent. Les 4 auteurs ont ensuite été arrêtés et condamnés à des peines allant jusqu'à 17 ans de prison. Et puis fin 2024, un enlèvement a aussi eu lieu à Bruxelles de l'épouse d'un influenceur crypto par 4 malfaiteurs. Là aussi, heureusement, la police a pu intervenir.
Nous partons pour l'Argentine. Flora Genoux, vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse chez vous ?
L'annulation du protocole anti-coupure de route, une mesure symbole de la méthode forte prônée par le président ultralibéral Javier Milei. Elle était mise en place dès son arrivée au pouvoir il y a 2 ans. Selon la justice, le décret présidentiel est illégitime, manque de justification et porte atteinte aux droits constitutionnels comme la liberté d'expression ou de réunion, détaille Chequeado. Le média en ligne rappelle, ce protocole autorise les forces de l'ordre à intervenir si des personnes perturbent le trafic routier. Une façon claire de réprimer les manifestations, analyse Parina Dossé. Le jugement estime aussi que l'exécutif a outrepassé ses fonctions en ne consultant pas le Parlement. Le gouvernement insiste sur le soutien de la population à son protocole et a fait appel, ce qui permet au texte de rester en vigueur, selon lui. C'est faux, assurent différents experts cités par El Diario AR, qui pointent du doigt la mauvaise foi de l'exécutif.
Dernière étape, nous partons au Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1, dans la presse japonaise ce matin.
Une expédition océanographique hors du commun, s'enthousiasme Nippon TV, et qui restera dans les annales, aucun pays n'ayant jamais tenté une telle prouesse technologique, ajoute le quotidien Asahi, à savoir exploiter ce qui est sans doute le 3e plus grand gisement mondial de terres rares, selon le quotidien financier Nikkei, 16 millions de tonnes de minerais, mais qui se trouvent dans les abysses du Pacifique, à 6000 mètres de profondeur. Valoriser ce trésor inestimable s'apparente à un défi titanesque, souligne Fuji News. Mais pour la chaîne NHK, en termes de sécurité économique, la réussite de cette expédition est vitale pour le Japon, car 60% des terres rares qu'il utilise proviennent de Chine. Le journal Tokyo Shimbun confirme, diversifier nos chaînes d'approvisionnement est d'autant plus impératif et urgent qu'à Pékin, le ton ne cesse de monter depuis la nomination de la nationaliste Sanae Takaichi à la tête du gouvernement japonais.
Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon.
C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h13. À suivre comme chaque jour, ce sont les initiatives en France, Alexandre.
Et ce matin, des petites boîtes à histoire pour les enfants. Vous savez, ces petites enceintes connectées là qui vous racontent des livres, alors sans écran, bien sûr. Des petites boîtes qui s'appellent Merlin. Elles sont 100% françaises. On les découvre dans 2 minutes.
Europe 1.
Bientôt 5h15, votre Europe 1, sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver votre histoire dingue. Marion Gagnon, vous nous parlez ce matin du gang du loto.
C'est sûrement la prière qu'ont fait les membres du gang du loto, un groupe de céréales joueurs, un Suisse à la loterie romande depuis 1 an. Alors la loterie romande, c'est l'équivalent de la française des jeux en Suisse. Elle propose 7 jeux de tirage, des tickets à gratter et des paris sportifs.
Et il y a un an, jour pour jour, le 15 janvier 2025, un réseau de joueurs a mené une opération commando parce qu'ils avaient repéré une faille dans le système.
Oui, alors plus exactement dans le système du jeu Joker. Joker, c'est un jeu de loterie.
Oui, le Joker promet de belles sommes aux heureux gagnants et après avoir analysé les probabilités et les statistiques, eh bien les têtes pensantes de ce réseau de joueurs en sont arrivées à une conclusion qui paraît effectivement plutôt logique. Si l'on joue toutes les combinaisons possibles, le gain serait supérieur à la somme dépensée pour valider toutes les grilles.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Ils se sont alors organisés pour, d'une part, établir toutes les combinaisons possibles et, d'autre part, recruter des joueurs pour aller valider tous ces tickets.
Et c'est donc pour le tirage d'il y a un an, du 15 janvier 2025, que les buralistes ont été pris d'assaut, Marion.
Exactement, tout était bien huilé. L'armée de joueurs a littéralement saturé les bureaux de tabac pour aller jouer en présentant des grilles pré-remplies. Deux combinaisons établies à l'avance pour couvrir absolument toutes les possibilités et éviter les doublons. Oui, mais voilà, certains buralistes ont trouvé quand même cet attrait pour ce tirage en particulier un peu louche. Ils se sont dit, tiens.
J'aime pas trop beaucoup ça.
Et alors, ils ont alerté la loterie romande, forcément.
Ben oui, alors la loterie romande, suspectant des irrégularités, a suspendu les paris, tout simplement.
Et oui, avant que les joueurs n'aient eu le temps de valider tous leurs tickets, ils avaient eu le temps quand même de jouer 65% des combinaisons possibles. Et c'est bien connu, la chance sourit aux audacieux. Les numéros qui sont sortis figuraient parmi les grilles déjà validées. Et cette combinaison n'avait été jouée que par un joueur du gang, jackpot, valeur du gain, 2 700 000 euros.
Oui, alors méfiance toujours de cette loterie romande qui suspectant toujours une anomalie, n'a évidemment rien payé tout de suite.
Non, forcément, une enquête a été ouverte. L'existence de ce gang de joueurs a été révélée et il fallait alors s'assurer que le dispositif mis en place respectait le règlement du jeu et que le ticket n'avait pas été validé par de l'argent sale. L'enquête a duré un an. Et finalement, le gang a eu gain de cause. Le joueur qui a validé le ticket gagnant a été payé. Il a reçu 2 700 000 euros, sûrement remis en commun avec les membres du collectif. Somme à laquelle, Alexandre, il faut soustraire 1 400 000 euros dépensés pour valider les grilles.
Et oui, quand même,
Et oui, quand même, mais ça fait un bénéfice finalement de 1 300 000 euros. Bon, c'est une belle affaire.
C'est une belle affaire. C'est passé une fois, mais pas deux.
Non, la loterie romande a modifié désormais son règlement et les paris de masse ne seront plus possibles à l'avenir. Alors, encore faudra-t-il les déceler. Mais c'est extrêmement malin. Franchement, ça donne envie de jouer. Alors moi qui gagne jamais, même un banco, je gagne rien. Là, franchement, ça m'épate.
Ça vous épate. C'est votre histoire dingue chaque matin sur Europe 1. Merci Marion Gagneau.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Bienvenue à tous, 5h17, le journal permanent, Fanny Marceau.
La question du Groenland au menu d'un conseil de défense convoqué en urgence à 8h à l'Elysée avant qu'Emmanuel Macron ne présente ses vœux aux armées à la mi-journée. Hier, Paris a annoncé envoyer des soldats sur ce territoire arctique attaché au Danemark et que convoite Donald Trump. Il ne faut pas sous-estimer la parole du président américain, a mis en garde le Premier ministre hier. Donald Trump qui assure cette nuit que les mises à mort de manifestants se sont arrêtées en Iran. Washington entretient le flou sur ses menaces et annonce surveiller de près la situation. Les contestataires tués par le régime des Mollahs se comptent par milliers. Tous les systèmes de communication sont coupés depuis une semaine. Les États-Unis ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question iranienne. Elle doit avoir lieu aujourd'hui. Première décision très attendue à la Cour d'appel de Paris. Elle doit se prononcer aujourd'hui sur les charges qui pèsent contre Marine Le Pen. Hier, au deuxième jour d'audience, le parquet général a reconnu ne pas avoir la même lecture que le parquet national financier, estimant que plusieurs contrats d'assistants parlementaires pour lesquels Marine Le Pen avait été condamnée l'an dernier doivent être retiré du dossier. À 6 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la FIFA a annoncé hier avoir reçu plus de 500 millions de demandes de billets, et ce malgré la controverse sur les prix élevés des entrées, des demandes qui proviennent de l'ensemble des 211 pays et territoires membres de la fédération, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Espagne et le Portugal.
Merci Fanny Marceau. Avant le journal de 5h30 sur Europe 1, dans 10 minutes, vous allez écouter Laurent Voulzy.
Oui, dans une version familiale de son tube de 1988, rebaptisé Le Soleil donne, père et fils.
Les initiatives en France sur Europe 1 ce matin, des boîtes à histoire pour passionner les enfants loin des écrans. Bonjour Marie Mérouze.
Bonjour Alexandre Lemaire.
Vous êtes la directrice générale de Merlin, comme Merlin l'enchanteur. Vous proposez des boîtes à histoire pour les enfants, développer leur imaginaire sans écran. Ben oui, parce que vos boîtes à histoire, ce sont des petites enceintes audio sans écran.
Exactement, il y a un tout petit écran, mais qui est là juste pour sélectionner le titre, et il s'éteint tout de suite.
Voilà, pas pour regarder des vidéos sans fin, voilà. Merlin, ce sont donc des boîtes à histoire, vous en êtes très fiers, hein, conçues et fabriquées en France, 100% françaises.
Tout à fait, tout à fait. On a une usine dans la Sarthe, vraiment, on va assez loin dans l'industrialisation. Les coques plastiques sont injectées en France. Les packagings sont imprimés en France aussi. Même la carte électronique est assemblée en France. Pour les composants, évidemment, viennent d'Asie. Ça, on ne sait plus faire en Europe.
Bien, 7 sites de production, je crois, un petit peu partout en France, Marie Mérouze. Et vous connaissez une croissance rapide. On peut même parler de décollage, hein?
Oui, c'est vrai, depuis 2024, là, on sent 2 années de décollage et de traction extrêmement forte. Alors qu'on sent que le marché des boîtes à histoire est plutôt en train de... il croît tous les ans, mais on sent qu'on est quand même en phase de maturation et nous, on croit davantage que le marché, en effet.
Dites-moi, intéressons-nous à votre boîte à histoire, justement. Décrivez-nous, à quoi ressemble-t-elle? Vous avez parlé d'un petit écran, mais comment ça se présente?
Alors, donc, l'enceinte se présente avec un design assez rétro. Donc, c'est un peu inspiré, on va dire, d'une radio des années 70, avec une poignée. C'est un produit vraiment très compact que les enfants peuvent... soit utilisé dans leur maison, soit emmené dans la voiture, dans le train, chez papy-mamie, etc. Et donc, la particularité de notre offre, c'est que nous avons, grâce à nos 2 actionnaires principaux, qui sont des éditeurs très connus dans le monde de la jeunesse et même dans le monde généraliste, on a accès en fait à un trésor en fait de contenus audio qui sont aussi partie du patrimoine français. Et une des particularités de l'offre Merlin, c'est que à l'achat de l'enceinte Merlin, on a accès à plus de 1000 contenus sans supplément dès l'achat.
Alors, ça ne doit pas être facile, effectivement, de se faire une place, vous l'avez dit, où la concurrence est forte et où les opérateurs se concentrent. Il y a les géants du secteur, comme à chaque fois, évidemment, Marie Mérouze.
Il y a quand même plusieurs grosses entreprises qui ont une belle place sur le marché en France, mais les 2 leaders mondiaux qui sont en train d'émerger, ce ne sont pas des entreprises américaines, ce sont des entreprises européennes. Ça, c'est assez atypique dans le monde des produits électroniques.
Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, d'ailleurs.
Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, je suis d'accord avec vous.
Bon, les histoires, vous avez parlé vous nous avez présenté la boîte, votre boîte à histoire, oui. Merlin. Comment les lit-on? Il y a des petites cartes à lire, ce sont des enceintes connectées, comment ça se passe?
Oui, c'est ça. Alors nous, on n'a pas fait le choix de matérialiser le titre audio, c'est-à-dire que le titre audio est purement dématérialisé, purement digital, et on peut le télécharger depuis l'application parentale. Donc le parent dispose d'une application sur son smartphone et peut télécharger les titres sur l'enceinte. Et ensuite, l'enfant peut naviguer avec des boutons et sélectionner son titre. Donc, en plus de toute la sélection incluse dont je vous parlais tout à l'heure,
oui,
plus de 1000 titres avec des documentaires, des histoires, on a aussi des partenariats avec les plus belles maisons d'édition jeunesse françaises,
oui,
pour proposer aux parents, s'ils le souhaitent, des livres audio et maintenant de la musique. On a lancé très récemment un partenariat avec Universal et donc on propose des titres audio à l'achat et je vous le donne en 1000. Ce qui cartonne en ce moment, c'est la K-pop.
Tiens donc, comme par hasard, ouais, la pop coréenne. Bon,
K-pop des modernes.
Ouais. Marie Mérouze, votre bibliothèque, j'imagine, s'élargit en permanence.
Oui, tout à fait.
Hein, il y en a pour tous les goûts. Alors justement, donc il y a à la fois, il y a des livres audio. Est-ce qu'il y a des contenus originaux également, ou c'est une transcription audio de livres existants?
Oui, il y a des contes audio originaux, des productions audio originales qui ne sont pas des productions Merlin. Nous, on travaille vraiment surtout avec des éditeurs jeunesse, voire même des éditeurs livres qui sont devenus aussi avec une production audio ou des pure players de l'audio. On fait les deux. On travaille aussi avec des éditeurs de podcasts. Mais effectivement, on voit se développer des formats. On a à la fois effectivement la lecture de livres audio classiques et traditionnels, mais on a aussi parfois des reformulations. Par exemple, on a un titre qui marche très bien, c'est Le Petit Prince. C'est une transcription poétique. Ce n'est pas la lecture littérale, on a les deux. Mais on a aussi une version qui marche très bien, où c'est une version plus condensée, qui reprend toute la poésie de l'œuvre originale, mais dans un format un peu différent, avec de la musique, avec différentes voix, etc.
Pour les parents, les auditeurs d'Europe 1 qui vous écoutent ce matin, Marie Mérouz, à partir de quel âge peut-on l'offrir, cette boîte à histoire à son enfant?
On dit que c'est dès 3 ans.
Oui.
Donc pour les plus petits, vous allez avoir des petits formats, des fictions plus courtes, il y a des comptines, il y a des berceuses, il y a beaucoup aussi de contenu pour le calme et pour s'endormir. On sait que parfois, trouver le sommeil pour un enfant, c'est compliqué.
Oui, je vois bien
et
ce que vous voulez dire.
La boîte à histoire, la boîte à histoire devient un atout. Et ça, on s'en rend compte parce que, comme par malheur, l'enfant fait dégringoler l'enceinte dans les escaliers. Ou la fait tomber dans le bain. Non, ça, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver.
Ça peut arriver aussi, oui.
Dans ces cas-là, les parents sont très insistants pour qu'on répare l'enceinte dans des délais les plus brefs, et c'est ce qu'on fait dans nos ateliers dans la Sarthe.
Bon, le prix?
Alors, pour l'instant, l'enceinte est à 84,90 €.
Merlin, les boîtes à histoire 100% françaises. Déjà plus de 30 millions d'écoutes, hein, Marie Mérouz, directrice générale de Merlin.
Fait.
Voilà, merci à vous, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci Alexandre, au revoir.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
Bon réveil à tous avec Europe 1, il est 5h24. Avant de retrouver le journal de Christophe Lamarre, un réveil en musique, Marion.
Et oui, on écoute Laurent Voulzy et ses 4 fils qui revisitent le tube Le Soleil Donne sur Europe 1.
Que tout le monde s'aime, le soleil donne. Ce vieux désir super qu'on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne de l'or intelligent, le soleil donne la même couleur aux gens.
Sur Europe 1, c'est un titre extrait de la dernière compilation de Laurent Voulzy intitulée « Collection inédite et rareté ».
Jeudi 15 janvier, bienvenue dans la prochaine demi-heure sur Europe 1. Dans 20 minutes maintenant, Marion, le Club Culture Europe 1.
Nicolas Carreau a choisi Amélie Nothomb ce matin pour le livre du jour.
L'actualité des expos et des spectacles.
Avec Olivier Benkemoun qui, lui, vous emmènera voir une exposition consacrée à David Bowie.
Après le journal, comment bien faire fructifier votre épargne? C'est une journée spéciale placement sur Europe 1 en partenariat cas avec le magazine Capital qui sort un numéro complet sur les placements qui rapportent cette année et ceux au contraire à éviter. Tous les conseils pour bien placer vos économies, c'est avec Jean-Jacques Monceau, journaliste à Capital, et c'est juste après le journal dans 10 minutes.
La météo avec Avenir Rénovation, votre partenaire confiance pour tous vos travaux. avenir-rénovation.fr.
La météo, Marion, tout à l'ouest, le Finistère est placé en vigilance orange.
Et oui, parce que ce matin, on a une perturbation très active qui va traverser la Bretagne et la Normandie avec de fortes pluies. Effectivement, surtout sur le Finistère, un minimum 40 mm attendu sur le département, qui est donc placé en vigilance orange, pluie, inondation. La perturbation, elle, va progresser vers les terres et toucher un large quart nord-ouest au fil des heures. Et puis attention, parce que ces pluies seront accompagnées de fortes rafales, hein, jusqu'à 100 km/h sur les caps exposés. Ailleurs, on a des entrées maritimes toujours, hein, qui vont donner quelques pluies sur le Gard et l'Hérault avec le vent marin. Et puis sinon, ce sera un temps assez calme en général, bien ensoleillé sur le flanc est du pays. Hein. Magnifique soleil en Corse et sur les Alpes, mais prudence parce qu'on a toujours un risque d'avalanche en Savoie. Donc si vous êtes en Savoie, attention sur les pistes. Côté température, on aura 9 degrés cet après-midi à Alençon, 10 degrés à Charleville-Mézières, 11 au Havre et à Belfort, 12 degrés à Paris, Orléans et Rouen, 13 degrés à Carcassonne et Clermont-Ferrand, 14 à Bordeaux et Grenoble, 15 à Albi, 16 degrés à Tarbes et à Marseille, 17 à Bastia et 18 magnifiques degrés à Pau. Quelle douceur exceptionnelle en ce moment à Pau. Vous pouvez aller en terrasse, hein. Mais en chemisette.
On ressort les parasols au mois de janvier.
Exactement.
Marion Gagnon, merci, bienvenue sur Europe 1, il est 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
À la une ce matin, Emmanuel Macron convoque aujourd'hui et en urgence un conseil de défense consacré à l'Iran et au Groenland. La France annonce qu'elle va envoyer des soldats au Groenland convoité par les États-Unis. En Iran, le régime affirme garder la situation en main malgré les manifestations contre le pouvoir. Le pays toujours coupé du monde alors que la répression aurait fait plus de 3000 morts et plus de 10 000 arrestations. Sans surprise, l'Assemblée nationale rejette les deux motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise, alors que l'exécutif perd patience face à la tournure des débats sur le budget 2026. L'hypothèse d'une adoption par 49-3 ou par ordonnance tient de plus en plus la corde. Dans ce journal, également, des criminels remis en liberté faute d'avoir jugé et été jugés dans les tribunaux légaux, dans les délais légaux. L'engorgement des tribunaux va contraindre la justice à relâcher des profils dangereux pour la société. 5h30 sur Europe 1, le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Des soldats français font route vers le Groenland. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir sur X. Mission de reconnaissance dans le cadre d'une opération militaire européenne alors que ce territoire est convoité par les Américains. Le président aura l'occasion d'en reparler à la mi-journée à l'occasion de ses vœux aux armées. La situation au Groenland et en Iran, elle sera directement abordée ce matin à 8h à l'occasion d'un conseil de défense d'urgence. Caroline Baudry.
C'est aujourd'hui que la mission européenne arrive sur la plus grande île du monde. Des militaires de France, d'Allemagne et de Suède participent à cet exercice. L'objectif est d'examiner les conditions en vue d'un soutien militaire de surveillance maritime, par exemple, précise le ministère de la Défense allemand. Washington s'inquiète d'une possible mainmise de la Chine et de la Russie sur le Groenland. Ni navire, ni investissement chinois sur l'île, répond le Danemark, qui tente de rassurer Donald Trump. La couronne promet d'y renforcer sa présence militaire. Elle rappelle avoir déjà investi 12 milliards d'euros pour cela et se dit prête à une présence accrue de l'OTAN. Des efforts tournés en ridicule par le locataire de la Maison Blanche. Une attaque américaine sur l'île convoitée sonnerait la fin de l'OTAN, avait alerté les Danois, puisque les trois parties appartiennent à cette même alliance militaire.
Caroline Baudry. Cet exercice militaire et les efforts de ce territoire autonome ne semblent pas convaincre totalement Donald Trump de renoncer à son ambition. Le président américain, fidèle à sa méthode, menacé, temporisé, menacé à nouveau. Je suis persuadé, dit-il, qu'une solution sera trouvée, mais nous avons besoin du Groenland pour assurer notre sécurité.
La crise sur la question du Groenland, la crise en Iran, où le régime assure que la situation est sous contrôle.
Le calme règne, affirme le ministre des Affaires étrangères iranien. Internet est toujours coupé, les communications téléphoniques très difficiles, l'espace aérien reste fermé. On redoute bien sûr les prochaines exécutions, alors que 10 000 personnes au moins ont été arrêtées ces derniers jours. Pas de pendaison, ni aujourd'hui, ni demain, assure les mollahs. Une soudaine mansuétude qui est aussi un message adressé aux Américains. Antoine Bienveau.
Oui, Téhéran a promis hier des procès rapides et publics pour tous les prisonniers arrêtés ces derniers jours. Plusieurs ONG alertent déjà sur la partialité probable de ces procès, disant craindre un recours massif à la peine de mort en vigueur en Iran. Une répression par le sang et la terreur que Donald Trump considère depuis le début du mouvement comme une ligne rouge. Le président américain assure qu'il agira de manière très forte en cas d'exécution de civils. Continuer à protester, l'aide arrive, a-t-il aussi promis sur ses réseaux sociaux. Une aide qui pourrait passer par de nouvelles frappes de la Maison-Blanche sur l'Iran. Hier, la base américaine d'Al Udeid au Qatar a été partiellement évacuée par mesure de précaution. Un signe peut-être d'une attaque imminente des États-Unis, car c'est cette même base qui avait été attaquée par l'Iran au mois de juin en riposte aux bombardements américains.
Antoine Bienveau est signe que la situation reste précaire. L'Inde demande à ses ressortissants de quitter l'Iran. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence ce soir.
Europe 1, il est 5h34.
Le débat sur le budget 2026 à l'Assemblée, le gouvernement s'impatiente, l'Élysée aussi.
Le Parlement rétablit l'indexation intégrale de l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. Son gel aurait entraîné l'entrée dans l'impôt d'environ 200 000 contribuables. La mesure va aggraver un peu plus le déficit que le gouvernement voudrait ramener absolument à 5%. Des débats qui traînent en longueur, un compromis pour l'instant impossible à trouver, un Premier ministre qui hésite, 49.3 ou ordonnance, et bien cette fois, l'Élysée s'en mêle, Jacques Serret.
Emmanuel Macron veut aller vite. Le président a fixé une limite, la fin du mois. Il faut un budget en janvier, martèle son entourage. Ce budget est attendu par les Français, mais aussi par les marchés et nos partenaires étrangers, insiste un conseiller. L'Élysée presse pendant que Matignon est à la manœuvre. Le budget était sur la table du Conseil des ministres. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, relate les propos de Sébastien Lecornu.
Il a insisté sur le fait que, vous le savez, l'impératif de réduction du déficit demeurait. Il doit être inférieur à 5%. Et qu'en tout état de cause, ce qui fait le compromis, c'est le fond et non la procédure parlementaire. Il a d'ailleurs précisé que le fond devrait être clarifié, coûte que coûte.
Mais sans compromis, l'exécutif n'aura d'autre choix que de passer en force. 49.3 ou ordonnance, peu importe, assure l'entourage d'Emmanuel Macron. Le président est neutre sur le dispositif. Seul compte le résultat, glisse l'un de ses proches. Manière, une fois de plus, de renvoyer la balle vers Matignon.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'exécutif qui a survécu aux deux motions de censure déposées par le Rassemblement National et la France Insoumise. Les deux textes n'ont pas recueilli les 288 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. La France qui continue de séduire les investisseurs malgré ses difficultés à adopter un budget, on vient de l'entendre. Bercy a levé 10 milliards d'euros à 20 ans sur les marchés, du jamais vu pour une telle maturité. Les investisseurs se sont bousculés à la porte. Oui, la demande a dépassé les 100 milliards d'euros. Alerte rouge sur l'envolée des dépenses de médicaments innovants pour les maladies rares et graves. L'assurance maladie parle d'une véritable explosion des coûts. 21 traitements à plus de 100 000 euros par patient et par an contre un seul il y a 10 ans.
Une information qui ne passe pas inaperçue, Christophe. La justice va devoir relâcher des criminels en attente de jugement.
Oui, ce n'est pas la première fois que la justice tire le signal d'alarme, mais désormais nous y sommes, disent les magistrats. L'engorgement des tribunaux a atteint le point de non-retour. En clair, William Molinier, des criminels actuellement en détention provisoires vont sortir de prison, faute de pouvoir être jugés dans les temps impartis.
Oui, direction la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans cette juridiction, 19 accusés criminels vont devoir être libérés cette année car ils ne pourront pas comparaître à temps devant une cour d'assises. Si un contrôle judiciaire strict leur sera sans doute imposé, c'est malgré tout une préoccupation pour les victimes et un message catastrophique auprès de l'opinion publique. Pourtant, la création en 2019 des cours criminelles départementales était censée permettre à minima de maintenir un stock acceptable des juridictions sans jurés populaires, plus souples, plus facilement mobilisables. Il n'en a rien été, les dossiers se sont accumulés, viols aggravés, assassinats, règlement de compte au sein de la criminalité organisée. Juger comme au siècle passé n'est plus possible, plaident les magistrats. Certains d'entre eux veulent la création d'une procédure contradictoire de plaidé coupable en matière criminelle, ce qui permettrait d'accélérer les procès en fixant une peine consentie. Dès lors qu'un accusé reconnaîtrait sa propre culpabilité.
William Molinier. La colère agricole, 50 militants de la Confédération paysanne en garde à vue après avoir forcé l'entrée d'une annexe du ministère de l'Agriculture hier. Le mouvement qui globalement semble refluer, même si des actions sont encore prévues aujourd'hui. Fin de l'occupation du péage de Fresnes-lès-Montauban au sud de Lille sur l'autoroute du Nord. Levée également du barrage sur l'A64 dans la région de Toulouse.
C'est quasiment acté, le taux du livret A va baisser le mois prochain. Europe 1 et le magazine Capital vous aident à y voir plus clair aujourd'hui sur les produits financiers à privilégier et ceux qu'il est au contraire préférable de laisser de côté.
La Banque de France réactualisera dans la matinée le taux du livret A, 1,7% aujourd'hui. Il pourrait être ramené à 1,4%, taux applicable dès le 1er février. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les épargnants, bien sûr, qui avaient déjà tendance à délaisser ce placement de moins en moins rentable. 4,5 milliards d'euros retirés entre octobre et novembre dernier. Barthélémy Philippe, quel conseil peut-on donner à ceux qui souhaitent faire fructifier leur argent ?
Premier conseil, garder un peu d'argent dans son livret A. Il est totalement liquide. En cas de coup dur, on peut piocher dedans en quelques secondes. Il est donc conseillé de conserver 2 à 3 mois de salaire sur son livret A et d'orienter les fonds restants vers des placements plus rémunérateurs, au premier rang desquels l'assurance vie, comme l'explique Maxime Chipoy, président de Moneyvox.
Le prolongement naturel, c'est le fonds euro de l'assurance vie. C'est la partie sécurisée. L'argent est garanti. Vous pouvez le récupérer en quelques jours. Et en ce moment, il rapporte en moyenne 2,5 ou 2,6%.
Pour booster son rendement, il faut se tourner vers les unités de compte de l'assurance vie investies dans des actions, des obligations ou des fonds immobiliers. Plus risqué, mais encore plus rentable, le plan d'épargne en action. Mathéis Mouflet est analyste financier chez XTB.
Un PEA, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'acheter des actions ou des fonds européens avec une fiscalité très avantageuse. En moyenne, la performance des marchés se situe entre 7 à 10% par
Enfin, l'investissement locatif fait partie des options, mais il demande plus d'implication que les autres formules.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Et dans quelques instants, après votre journal, Christophe, on va ouvrir ensemble ce numéro spécial placement de Capital ce mois-ci, en partenariat avec Europe 1. Les placements à privilégier, les placements à éviter, ce sera avec Jean-Jacques Manceau, expert de l'épargne au magazine Capital.
Et un petit mot de sport pour terminer. Ouverture du championnat d'Europe de handball, compétition organisée dans 3 pays, Danemark, Suède et Norvège. Les handballeurs français entament ce soir la défense de leur titre face à la Tchéquie. Premier match du tour préliminaire à 18h.
Christophe Lamarre, merci. Bienvenue sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver à 6h20 les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre. Retour à Vincennes pour ce Quintet, une course européenne aux trois attelés des plus ouvertes qui réunira 16 trotteurs sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 6, Thur Ella, un Suédois expérimenté désormais âgé de 9 ans, qui va certes découvrir l'hippodrome de Vincennes, mais jugé sur ce qu'il a réalisé chez lui en Suède, il a visiblement les aptitudes et la qualité nécessaires pour d'emblée s'illustrer. On lui opposera Chitchat, le numéro 1, facile lauréat le 24 décembre d'un quintet à Vincennes, mais aussi Chestnut, le numéro 13, excellent quatrième ce jour-là, avec Gum Duponcelet, le numéro 7, à nouveau proche de son meilleur niveau après 9 mois d'absence, comme le prouve sa très facile victoire obtenue le 8 décembre à Bordeaux-le-Bouscat, mais aussi Graziella Dell, le numéro 10, souvent vu à son avantage sur ce tracé de vitesse. Enfin, les numéros 9, Glamour Yoma, 8, Forest Gum 7 et 3, Hydromel, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 1, 13, 7, 10, 9, 8 et 3.
Merci Thierry Léger.
Et vous retrouvez dès maintenant Thierry Léger et tous ses pronostics sur l'application Europe 1 et sur europe1.fr.
Il est donc 6h20 et c'est donc l'heure de jouer, Marion, sur Europe 1.
Et oui, alors attention, cette semaine vous allez rencontrer le monde avec Salin Holidays. C'est le spécialiste des circuits accompagnés. Europe 1 vous offre un voyage d'exception de 11 jours avec la personne de votre choix au Vietnam. Vous serez accueillis par des guides francophones pour un circuit accompagné de Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon à la baie d'Along, en passant par le delta du Mekong, Hue, la cité impériale et Ninh Binh. Spectaculaire Ninh Binh avec ses fameuses rizières. Découvrez ce magnifique voyage sur salin-holidays.com ou directement en agence de voyage.
Pour la question du jour, vous plongez aujourd'hui dans la vie de Molière. Que sait-on de sa personnalité ? Comment Molière est-il devenu le plus grand homme de théâtre français ? Découvrez-le en écoutant le podcast Au cœur de l'histoire, disponible sur l'appli et le site Europe 1. La question, donc, quelle est la dernière pièce de Molière ? Réponse A, Les femmes savantes. Réponse B,
le malade imaginaire.
Allez, pour tenter votre chance et peut-être remporter ce magnifique voyage, vous envoyez Vietnam au 7 39 21, 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et chaque jour, un gagnant est également tiré au sort parmi les inscrits pour remporter son abonnement de 3 mois au JD News. C'est Jean-Pierre qui habite Saint-Georges-du-Vièvre, c'est dans l'heure, qui remporte l'abonnement mis en jeu hier. Alors bravo à vous, Jean-Pierre, l'abonnement arrive très vite chez vous.
Allez, bonne chance à tous.
Europe 1, il est 5h43. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est Jean-Jacques Manceau, journaliste et expert des questions de placement au magazine Capital.
Bonjour Jean-Jacques Manceau.
Bonjour.
Le magazine Capital publie un numéro spécial placement. C'est à retrouver en kiosque dès maintenant. Voilà, je vous le montre à l'écran, chers auditeurs, si vous nous suivez sur Europe 1 TV. C'est un partenariat Europe 1. Quels sont les produits qui rapportent? Quels sont ceux qu'il faut au contraire éviter? Alors les Français, Jean-Jacques Manceau, sont de plus en plus nombreux à épargner. C'est vrai que le livret A fait grise mine et Christophe Lamarre vous en parlait dans son journal. Mais il existe une multitude de placements rentables. Quels sont-ils ?
Alors aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment conseiller, c'est de revenir fortement, c'est d'ailleurs ce que les Français font, sur les contrats d'assurance-vie. Pourquoi les contrats d'assurance-vie ? Parce que le contrat d'assurance-vie est une enveloppe fiscale, ce qu'on appelle une enveloppe fiscale, c'est-à-dire qui permet d'investir dans tout type d'actifs, des actions en bourse, des obligations, de l'immobilier, des fonds sécurisés, des fonds un peu plus risqués. Donc l'assurance vie, ça permet d'investir sans avoir d'impôts à payer, enfin en limitant fortement la facture fiscale en sortie de l'assurance vie. Donc pourquoi on revient fortement sur l'assurance vie ? C'est qu'au sein de l'assurance vie, il y a un certain nombre de placements qu'on appelle des placements sécurisés, ce qu'on appelle les fonds euros. Et ces fonds euros, au moment où les taux directeurs, les taux de la Banque Centrale Européenne étaient très bas, ces placements euros ne rapportaient quasiment plus rien. On parle des années 2020. Et donc, en fait, avec la hausse très forte des taux, les placements en euros ont commencé vraiment à se bonifier. Et aujourd'hui, alors que sortent la plupart des performances des fonds euros, on remarque que ce sont des fonds qui vont rapporter entre 2,5, 3,5, 4,5% pour les meilleurs contrats. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet de placer en toute sécurité, sans risque, avec une fiscalité allégée, son argent et de le rémunérer entre 3,5, 4,5%. Alors, en plus, ça permet aussi d'investir dans des unités de compte qui sont plus risquées parce qu'elles vont aller en bourse, parce qu'elles vont être misées sur l'immobilier. Donc, vraiment, l'outil, l'assurance vie, c'est vraiment l'outil, ça, c'est la pierre angulaire, c'est vraiment le cœur du patrimoine des Français. D'ailleurs, il y a plus de 2000 milliards d'euros des Français qui est en assurance vie aujourd'hui.
Jean-Jacques Manceau, vous nous avez parlé de l'assurance vie. Il y a d'autres placements intéressants dans votre numéro spécial placement de capital. Vous évoquez aussi la question de l'or. On peut placer une partie de ses économies dans de l'or.
Bien sûr, c'est vrai que 2025 a été ce qu'on appelle une année en or, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'éléments géopolitiques, beaucoup d'éléments économiques ont fait que la valeur refuge qui est l'or est devenue très intéressante. Et d'ailleurs, l'once a dépassé les 4 000 $, ce qui était jamais arrivé. Alors, est-ce qu'on peut y placer une partie de son épargne ? Oui, pour sécuriser, pour transmettre éventuellement à ses héritiers. Après, l'or, ça ne rapporte rien, c'est-à-dire que ça ne rapporte pas d'intérêt. On l'achète et on le revend. Et si on a un peu de chance, entre l'achat et la revente, il y a une petite plus-value qui, en plus, est un petit peu fiscalisée. Donc, l'or, pourquoi pas ? Il faut que ça reste une partie très... très très minime de son patrimoine. Par exemple, on peut très bien placer 5% dans l'or. Dans le même type d'idée, l'immobilier peut aussi présenter une fenêtre d'investissement qui est assez intéressante, soit dans l'immobilier en direct, soit dans l'immobilier ce qu'on appelle la pierre papier, c'est-à-dire des immobiliers dématérialisés au travers des sociétés civiles de placement immobilier, qui sont des placements relativement sécurisés et qui rapportent des loyers, c'est-à-dire que les logements qui sont généralement des bureaux sont gérés par des professionnels et en échange les loyers sont reversés aux gens qui portent ces parts. Aujourd'hui, les bonnes SCPI versent entre 5 et 7% par an, ce qui peut être intéressant
c'est très intéressant. 5 à 7% effectivement.
C'est 5 à 7% de loyers par an, donc alors certes c'est fiscalisé mais c'est relativement intéressant. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout à l'heure on a parlé beaucoup d'assurance vie avec les fonds en euros, ceux qui sont placer sur des placements sûrs, mais il faut aussi mettre une partie de ses investissements, de son épargne dans la bourse. C'est-à-dire que les actions sur le long terme, sur le long terme, les actions rapportent toujours plus que les autres placements.
Bon, ça c'est pour les auditeurs d'Europe 1, Jean-Jacques Manceau, qui aimerait prendre plus de risques, parce que c'est pas le placement le plus confortable, entre guillemets, placé en bourse. Il faut surveiller, il faut s'y connaître un petit peu.
Placé en bourse au travers des fonds ou au travers ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire des trackers qui suivent des indices, c'est relativement simple. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, si on a envie d'investir par exemple dans la bourse française avec son indice phare qui est le CAC 40. On peut très bien acheter un ETF CAC 40 et on suit la performance du CAC 40 de façon très fine et très simple, avec peu de frais. Donc en fait, aujourd'hui, on peut faire une allocation. Si on a envie d'aller un peu sur la bourse, on peut miser sur le CAC 40 au travers un ETF CAC 40. On peut miser, par exemple, sur les plus grandes entreprises du monde, et notamment les américaines, au travers d'un ETF MSCI World, donc qui suit un indice mondial qui suit plusieurs centaines de sociétés. Donc on peut s'investir en bourse avec la promesse de faire entre 7 et 10% par an sur le très long terme. Attention, encore une fois, on est sur le très long terme, c'est-à-dire que si on a la retraite qui arrive dans 2 ans, c'est peut-être un peu trop risqué d'aller en bourse, mais ce sont des placements long terme qui permettent vraiment de dynamiser son épargne. Donc pour moi, le combo gagnant, c'est certes garder un livret A qui pour y gérer son épargne de tous les jours, mais c'est d'ouvrir, en tout cas d'enrichir, d'ouvrir ou de compléter son assurance vie avec un fonds en euros et avec des fonds beaucoup plus dynamiques qui sont placés soit dans de l'immobilier, type on a parlé des SCPI, soit en bourse. On fait une allocation de type 60-40 ou 80-20 pour ceux qui veulent vraiment prendre un peu moins de risques. Et je pense qu'on est plutôt pas mal pour 2026.
Bien, on est plutôt pas mal. On a bien suivi vos conseils sur les placements les plus intéressants et votre conseil, en effet, Jean-Jacques Monceau. Dans tous les cas, c'est toujours vrai, diversifier son épargne, son portefeuille. Un dernier mot peut-être, puisque vous mentionnez, vous identifiez aussi les placements à éviter cette année. Quels sont-ils ?
Alors, les placements à éviter, je dirais, déjà, c'est de... On conseille d'éviter globalement tous les placements qu'on ne comprend pas. En fait, aujourd'hui, quand on ne comprend pas les placements qui ont des promesses de rendement de 8, 10% qu'on ne comprend pas, il vaut mieux l'éviter. Après, il n'y a pas en soi de placement mauvais à partir du moment où les placements sont gérés par des gens sérieux, agréés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Il n'y a pas de mauvais placement. Après, est-ce qu'il faut mettre un peu d'argent de son épargne dans l'or? Est-ce qu'il faut miser un petit peu sur le Bitcoin? Aujourd'hui, le Bitcoin, il est plutôt aux alentours de 80 000 à 5 000 $. On peut estimer qu'il va retourner vers les 100 000 $. Donc, est-ce qu'il faut aller sur le Bitcoin? Pourquoi pas? Mais encore une fois, ce que vous disiez, c'est la diversification qui compte, c'est-à-dire mettre une petite partie de son patrimoine sur des valeurs qui peuvent augmenter fortement, mais qui peuvent aussi se rétracter très fortement pendant plusieurs années. Mais il n'y a pas de mauvais placements. Après, il y a des placements qui sont plus ou moins sensibles à la conjoncture. Il y a des placements qui sont plus ou moins sensibles à la hausse ou à la baisse des taux des banques centrales. Donc, c'est là qu'il faut voir que, par exemple, l'immobilier est plutôt très sensible aux politiques des banques centrales. Donc, c'est peut-être pas l'idéal pour jouer en 2026.
Voilà, le numéro spécial placement du magazine Capital, disponible en kiosque dès maintenant et en partenariat, je le rappelle, avec Europe 1, les produits qui rapportent, ceux à éviter. Merci, Jean-Jacques Manceau, journaliste à Capital, expert dans les questions de placement.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Bon réveil et bienvenue sur Europe 1, il est 6h10, le journal permanent, Christophe Lamarre.
Emmanuel Macron convoque aujourd'hui et en urgence un conseil de défense consacré à l'Iran et au Groenland. La France annonce l'envoi de soldats sur ce territoire arctique administré par le Danemark mais convoité par les États-Unis. Donald Trump va-t-il frapper l'Iran? Les tueries ont pris fin, assure le président américain, qui laisse toujours planer la menace d'une intervention militaire. Le régime des Mollahs annonce de son côté suspendre les exécutions déjà programmées. 50 militants de la Fédération paysanne en garde à vue après avoir forcé l'entrée d'une annexe du ministère de l'Agriculture hier. Le mouvement qui semble refluer globalement, même si des actions sont encore prévues aujourd'hui. Lever des barrages sur l'autoroute du Nord près de Lille et la 6 dans la 64 dans la région de Toulouse. Le taux du livret A probablement revu à la baisse dès le 1er février. La Banque de France publiera dans la matinée son taux actualisé applicable dès le mois prochain. Et puis l'ouverture du championnat d'Europe de handball, entrée en lice des Français qui entameront la défense de leur titre ce soir à 18h face à la Tchéquie.
Merci Christophe. Journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Excellent, jeudi matin à l'écoute d'Europe 1. Bonjour, il est 5h52.
Le Club Culture, bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Alexandre.
Comme chaque jeudi, Nicolas, vous nous proposez un roman au format poche. Ce matin, Amélie Nothomb.
L'impossible retour, c'est le titre au livre de poche. Elle raconte comment un jour son ami photographe Pep a gagné un voyage pour deux au Japon et lui a proposé de l'accompagner. Or, on connaît l'attachement d'Amélie Nothomb pour le Japon depuis au moins Stupeur et Tremblement. Le roman dans lequel elle racontait la vie compliquée d'une employée de bureau au Japon, elle y a aussi vécu son enfance et donc impossible retour parce qu'elle sait que la nostalgie va la submerger. Mais Pep y tient.
Pep, c'est son ami, drôle de nom.
Et incroyable personnage exalté et flamboyant et légèrement agaçant parfois qui oblige Amélie à s'aventurer dans certains endroits qu'elle aurait voulu éviter par crainte du vertige mélancolique. Et c'est ce personnage qui fait tout l'intérêt du livre. On les suit dans leur visite du Japon. Pep veut tout voir, en premier lieu les endroits touristiques. C'est normal, c'est sa première fois là-bas. Et tout est surprise, les restaurants, les hôtels. Ah oui, alors Pep a une particularité. Elle est allergique puissance 1000 aux acariens. Et si elle a une suspicion, il faut absolument changer de chambre tout de suite. Et dans ces cas-là, elle va frapper à la porte d'Amélie qui fait l'interprète. Même si il est 2h du matin et que le réceptionniste lui explique qu'il n'y a pas de chambre de libre, qu'à cela ne tienne, Pep veut changer d'hôtel, mais à cette heure-là au Japon, n'y comptez pas, c'est ce qu'essaye d'expliquer Amélie à Pep, dans le froid, sous la pluie, avec leur valise, en pleine nuit, avec le réceptionniste qui les regarde partir en ricanant.
Bah au moins elles auront vécu une expérience.
Exactement, sans Pep, on aurait des moments beaux et poétiques et des évocations du Japon par quelqu'un qui connaît intimement le pays. Il y a ça, mais il y a aussi le bar à lapins, un café où il n'y a que des lapins. Pep est une fan de lapins et donc on se retrouve avec elle dans une pièce où les lapins sont rois et où donc ça chlingue. On boit un peu trop de saké avec elle le soir, on découvre des lieux incroyables, un jardin de thé, le mont Fuji. Attention, ça donne énormément envie d'aller au Japon et l'air de rien, mais ça c'est la marque de beaucoup de livres d'Amélie Nothomb. On commence à penser à des concepts métaphysiques ou philosophiques, l'éternel retour de Nietzsche. Par exemple, peut-on, doit-on souhaiter retrouver sa vie à l'identique ?
L'impossible retour d'Amélie Nothomb, c'est au livre de poche. Merci Nicolas.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.
L'actualité des expos et des spectacles, comme chaque jeudi. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Marion, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous nous emmenez voir une exposition consacrée au grand David Bowie.
Et David Bowie qui est décédé il y a 10 ans déjà. Alors pour lui rendre hommage depuis quelques semaines dans un sublime hôtel particulier de Saint-Rémy-de-Provence, il y a cette expo de 150 photos. Beaucoup sont inédites.
Alors que voit-on Olivier sur ces photos ?
On voit davantage David Jones que David Bowie. David Jones, c'est son vrai nom. Il y a des photos de lui très jeune, on le voit avec son père sur la plage, on le voit avec sa maman, on le voit à 17 ans, très blond. C'était sa première apparition à la BBC en tant que président de l'association du droit à porter les cheveux longs. Un vrai combat. Ensuite, on parcourt les différents Bowie, chanteurs extravagants, performeurs, comédiens. Il y a de très très belles photos, et notamment une série prise au Festival de Cannes, en noir et blanc, costume croisé et chapeau, d'un chien absolu. Rémi, qui a fait la visite, a tout adoré.
Je ne pensais pas que dans un lieu comme ça, on puisse se réunir dans un hôtel particulier. La vie de Bowie, de son frère, c'est mélancolique comme parcours. J'ai bien aimé aussi l'aspect musical dans les différentes pièces. Ça nous a remémoré les morceaux.
Il y a effectivement une sélection de ses tubes à écouter pendant la visite, mais Rémi parlait également du frère de David Bowie, Terry Burns, son grand frère, atteint de schizophrénie. Il a été longuement interné. C'est lui qui avait initié David à la musique, à la littérature. Au moment où David Bowie a atteint le sommet, son frère a sans doute été laissé de côté et en a beaucoup souffert et s'est suicidé. L'exposition lui rend hommage d'une manière très originale. Les légendes qui accompagnent les photos sont écrites comme si elles avaient été rédigées par Terry Burns, ce qui rend les choses encore plus intimes, m'a dit Françoise.
On l'a quand même perdu en janvier, ça nous a beaucoup attristés, et donc là, de le revoir dans un musée, ça nous fait plaisir. Moi, j'ai vu David Bowie très jeune, j'avais 15 ans, et là, ils sont passés, avant qu'il soit célèbre, j'ai appris pas mal de choses.
Bon, et puis enfin, on apprend à travers cette exposition, Olivier, que David Bowie avait des liens profonds avec la France.
Oui, son grand-père paternel est mort pour nous pendant la Seconde Guerre mondiale. La littérature française, la poésie surréaliste française, quelques peintres français font également partie de sa très grande culture. C'est vraiment une exposition formidable qui a été prolongée jusqu'au 1er mars.
Voilà, David Bowie, Mr. Jones, Long Hair, c'est une immersion inédite dans l'univers de Bowie et c'est une très belle exposition à voir à l'hôtel de Lagoa, Saint-Rémy-de-Provence. Merci Olivier Benkemoun.
Ouais, Europe 1, il est 5h57, excellent réveil à tous.
Votre météo sur Europe 1 dans un court instant, Marion, dans la prochaine demi-heure. Rendez-vous avec Omblin Droche. Bonjour Omblin.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
Dans votre partition à 6h20.
Il a milité pour qu'un jour férié soit instauré afin de célébrer la mémoire et les combats de Martin Luther King. Cette chanson Happy Birthday de Stevie Wonder est dédiée à l'icône des mouvements pour les droits civiques, Martin Luther King, dans la partition dans 20 minutes sur Europe 1.
Et dans un quart d'heure, Marion, l'édito de Laurent Tessier.
Laurent a regardé hier la dernière cérémonie des vœux de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo.
Le temps pour ce jeudi, forte pluie et coup de vent, attention, dans le nord-ouest.
Et oui, c'est vrai qu'on va retrouver une perturbation très active aujourd'hui. Hein. Pluie et vent fort vont envahir le nord-ouest, notamment les côtes de la Manche et la Bretagne, avec des rafales jusqu'à 90 voire 100 km/h sur les caps exposés et beaucoup de pluie en Bretagne. Le Finistère est placé en vigilance orange pluie inondation toute la journée. Donc prudence dans le Finistère. Et puis ce front pluvieux, il va progresser au fil des heures. Il va toucher les pays de la Loire et les Hauts-de-France. Donc vraiment, vous allez avoir du vent, de la pluie sur tout le nord-ouest et ce toute la journée. Ailleurs, le temps sera couvert et humide aussi avec des entrées maritimes en Languedoc toute la journée également. Et puis sinon, ça va être une alternance de soleil et de nuages. C'est vraiment sur le flanc est, donc en Corse et surtout entre les Alpes et l'Alsace, hein, que la journée sera la plus agréable avec un grand et beau soleil. Côté température, eh bien écoutez, c'est toujours la douceur. Les températures sont en général comprises entre 3 et 10 degrés ce matin. On a toujours quelques gelées vers les massifs. Et puis cet après-midi, vous aurez 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 11 degrés à Saint-Étienne, 11 au Mans et à Aurillac, 12 degrés à La Rochelle, Paris et Strasbourg, 13 degrés à Rennes, Limoges et Clermont-Ferrand, 14 à Toulouse, 15 à Nîmes et à Toulon, 16 degrés à Brive et à Ajaccio, 17 à Biarritz et jusqu'à 18 degrés à Pau.
Merci Marion, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, voici votre journal. Europe 1, il est 6h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
À la une, les ministres et les plus hauts gradés des armées autour d'Emmanuel Macron, conseil de défense en urgence.